Paroles d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Voici venue la dernière émission 2015-2016. Le thème, il réside parmi nous. Il y a parmi nous des auteurs plus ou moins oubliés, des acteurs dont le rôle pour l'écrit, le livre est porteur de renaissance. Et nous en parlons peu ou pas du tout. Pour cette émission, que de choix possibles. Mais un choix s'imposait, pas plus de 3 personnes mises en valeur. Alors voici notre choix. À Paris, un acteur de notre société et aussi un auteur. Dans la région PACA, un auteur né en Bretagne et qui réside dans le Var. Et par lui, nous rendons hommage à tous les auteurs de la région PACA. Et nous tenons à mettre en valeur une initiative que Sanary-sur-Mer prend chaque année. Chaque année, au moment des vacances, à Sanary-sur-Mer, il y a mise en valeur des personnes en vacances qui peuvent présenter leur ouvrage, les vendre et les commenter. Et la deuxième personne sera une femme aux contributions plurielles dans le livre. Dans la région, ce sera la seconde partie de l'émission, François Floïc, né en Bretagne en août 1920, eh oui, 96 ans, et vous allez voir avec quelle jeunesse il va nous parler. Il a été aide de camp du général de Gaulle, et à ce titre, il accompagne le général de Gaulle à Baden-Baden, puis en Irlande, en mai 69. Il est vice-amiral, et en plus de ses ouvrages à ce jour, dont Charles de Gaulle, dernier roi des Francs, il vient de finir un manuscrit qu'il va remettre très vite, je pense, dès qu'il aura trouvé un éditeur, ce qui ne va pas manquer. Dès que ce livre sera paru, nous aurons avec lui un entretien d'une heure et nous serons peut-être les premiers à vous en parler. La deuxième personne de la région, Géraldine, fondatrice, directrice des éditions Graines d'Argent à Corinthe et merveilleux village du Var traversé par l'argent. Voici une femme qui honore le livre. Elle fait des publications dans sa maison d'édition tout à fait extraordinaire. Rappelons que sa maison d'édition Graines d'Argent est la première maison d'édition en France bio dans un village bio. Une autre idée qu'elle vient d'ouvrir, c'est un concours pour les lycéens du lycée professionnel agricole de son pays d'origine et qui deviendra ensuite, en 2018, un concours national. Elle va d'autre part accueillir l'an prochain le congrès national de l'association des écrivains et artistes paysans. Et enfin, la première rencontre, Naissance et Partage, aura lieu en 2017 et ça sera la première rencontre pour la région PACA, 4 actions majeures dont nous reparlerons tout à l'heure. Et je vous donnerai les références pour suivre ces activités. À Paris, allons-y pour la première partie. Vous connaissez très probablement le père. Peut-être ne connaissez-vous pas le fils. D'une part, un homme engagé, un homme dans l'action. D'autre part, un philosophe qui associe ce qui est rare, science et culture. D'une part, le fils. D'autre part, le père. Dialogue entre deux générations qui questionnent l'individu moderne, son indépendance accrue, mais aussi sa quête de relation, de convivialité, d'empathie, pour lutter contre une solitude mortifère, pour lutter contre l'isolement. Le père, Michel Serres, membre de l'Académie française à qui nous avons rendu hommage récemment. Le fils, Jean-François Serres, délégué général des petits frères des pauvres et référent du projet Mona Lisa, qui veut dire tout simplement mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. Nous en reparlerons aussi. Le fils, malheureusement, ne peut pas au dernier moment être présent à l'antenne, un emploi du temps surchargé, des urgences, terrible dilemme pour celui qui écrit, l'intensité d'une relation dépend en fait beaucoup du temps qu'on lui consacre. Il a 57 ans, l'âge où l'activité rencontre souvent la tentation de l'activiste, où l'urgence est, comme le dit avec pertinence l'Aïdi, violence du temps qui ajoute, et ô combien c'est juste, l'urgence est toujours en retard sur le temps. De ce dialogue, un ouvrage, Solitude, sous-titre « Dialogue sur l'engagement », aux éditions Le Pommier, il est paru l'an dernier, en 2015. Il s'agit de 7 entretiens entre le fils et le père. Alors, pour remplacer Jean-François au dernier moment, Anna et moi allons vous lire des extraits de ce livre en deux temps. Anna prendra la voix de Jean-François, je prendrai la voix de Michel. Nous allons dans un premier temps écouter quelques extraits du livre, puis nous écouterons un extrait de la musique du film « Sans famille » que Jean-François avait choisi lui-même pour cette émission. Et aussitôt après, nous entendrons quelques citations choisies dans le livre. Anna lira celle qu'elle a retenue pour Jean-François et je vous dirai celle que j'ai retenue pour Michel.
J'aimerais que notre dialogue aide à mieux comprendre notre époque et notre société, qu'il éclaire sur les causes de l'isolement et de la solitude qui frappent tant de personnes aujourd'hui, et qu'il trace l'ébauche de chemin mettant la fraternité à la portée de toutes les mains. C'est pourquoi j'ai souhaité avoir ce dialogue plus approfondi avec toi, mais nous ne pouvons pas faire l'économie de cette dimension. Tu es aussi mon père. Nous avons des parcours presque opposés. Je suis engagée dans l'action. L'important pour moi est que les choses bougent, se transforment dans le réel. Et pour toi, c'est la pensée qui compte, il n'y a pas de doute. Ces choix ont été plus ou moins volontaires d'ailleurs, et plus ou moins heureux. Ils sont aussi le résultat d'un chemin assez solitaire. La question centrale qui me préoccupe pourrait se résumer ainsi. Comment être ensemble dans ce monde-là ? C'est quelque chose que j'expérimente et qui me mobilise au quotidien. Faciliter l'initiative des gens dans la réalisation de projets là où ils vivent. C'est par là que passe le renouveau de l'engagement. C'est une évolution qu'il est urgent de mener. Aujourd'hui, une des plus grandes souffrances sociales est constituée par la solitude non choisie que vit un nombre de plus en plus important de personnes en France. Les personnes âgées sont les plus touchées. Elles perdent peu à peu l'ensemble de leurs relations, en commençant par celles dont elles disposaient dans leur réseau professionnel, puis leurs conjoints, des amis, des voisins. La dispersion des familles fait qu'elles vivent très souvent seules. Enfin, avec l'âge vient la réduction des capacités fonctionnelles et de la mobilité, ce qui les rend dépendantes des relations de voisinage, qui sont souvent devenues peu actives, voire inexistantes. Aujourd'hui, 1,5 million de personnes de plus de 75 ans vivent cet isolement social, cette solitude subie dont elles ne peuvent s'extraire. Voilà l'urgence qui nous a poussés à lancer une mobilisation nationale. Durant ces dernières décennies, l'effort d'émancipation a en effet été considérable pour donner à chacun les armes lui permettant de n'être pas seulement le fils de son père ou la femme de son mari, mais un individu autonome, libre de ses choix. L'émancipation des liens communautaires a permis d'atteindre un statut d'individu autonome. Mais aujourd'hui, un renversement s'est opéré. Les personnes qui souffrent de solitude peinent à rentrer dans ce qui fait d'une personne un individu. Ce ne sont plus les dominations des communautés qu'il faut aujourd'hui combattre pour vivre libre, mais l'isolement social. Tout le monde. Si l'on ne dispose de relations qu'au sein d'un seul et unique réseau, par exemple, seulement dans sa famille ou seulement au travail, il suffit de rompre avec ce réseau pour se trouver totalement isolé. Près d'un tiers des Français se trouvent dans ce cas. C'est dire la fragilité de notre société face à l'isolement social. C'est ce qui arrive à de nombreux jeunes qui n'ont pas durablement accès aux études ou à un métier et qui rompent avec leur famille. C'est ce qui arrive lorsqu'on vit une rupture dans son couple et que l'on se retrouve au chômage. C'est le risque que l'on court dès que l'on fait face à une précarité, à la maladie ou à un handicap. Moments durant lesquels on voit sur qui l'on peut compter. Et c'est aussi ce qui se produit lorsqu'en vieillissant, on perd progressivement ses relations. Rétablir des relations nécessite alors beaucoup d'énergie, à un moment où l'on en manque singulièrement. Dans une société qui a fait émerger l'individu comme une vraie richesse, il y a donc un nouvel enjeu qui est apparu, face à l'isolement social, face à cette nouvelle misère sociale qui apparaît à l'issue d'un processus long et profond d'individualisation de nos modes de vie et de société. Comment inventer de nouvelles formes de collectivité, d'appartenance ? Il me semble que nos deux parcours de vie sont traversés par ces forces souterraines. Tu as traversé la sortie des grandes guerres du XXe siècle, la tension vers la paix et la prospérité, avec la libération de l'emprise des collectifs. Tandis que, de mon côté, j'ai évolué dans une société développée et en paix, dans un monde où les grands combats et les grandes utopies étaient derrière nous, et où le sens qu'il y avait à être là était moins évident. Mon parcours et mes expériences de vie ont été premières. Mon parcours et mes expériences de vie ont été à première vue disparates. Comme s'il n'y avait pas de sens particulier à vivre à mon époque. J'ai la sensation d'avoir été tout le temps traversée, justement, par cette tension entre isolement social et nouvelle forme d'appartenance.
Les manières de se mettre ensemble d'autrefois sont effectivement en train de se perdre. Il nous faut donc en créer de nouvelles. Il nous faut inventer un nouveau vivre ensemble, un nouveau nous. Il y a des moments dans l'histoire où des questions apparaissent et se cristallisent. Il faut savoir les percevoir et les analyser au bon moment. Cette question me semble majeure au regard des changements globaux actuels de notre société. Je parle justement de cette problématique dans mes trois derniers livres. Cela a contribué à ma motivation pour partager cette réflexion avec toi. Tu vis concrètement ce que j'envisage du point de vue théorique depuis des années. Je perçois de façon palpable la génération de ce problème de la solitude lorsque je fais une conférence. Quel qu'en soit le sujet, lorsque vient le temps des questions-réponses, il est rare que je ne sois pas interrogé par quelqu'un sur la solitude. Cela ne m'étonne pas que tu sois enfin entendu sur le sujet, parce qu'on assiste à une généralisation de la prise de conscience que la société change, qu'elle pivote, qu'elle est en train d'acquérir un nouveau profil. Certaines causes de cette évolution sont assez évidentes. L'augmentation de l'espérance de vie. Aujourd'hui, une femme de 60 ans est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1600. Elle peut espérer vivre jusqu'à 85 ans. Par conséquent, la vieillesse est devenue un vrai sujet de société. Une autre cause est à trouver dans les métiers. Les plus collectifs d'entre eux se sont désagrégés, au détriment de métiers plus individualisés. Les nouvelles technologies favorisent le travail à distance et la délocalisation, sans compter la crise économique et les problèmes de chômage. Selon moi, la naissance de l'individu moderne n'est pas le résultat des seuls progrès sociaux, mais aussi de toute une coulée historique et culturelle qui nous transforme depuis près de 2 millénaires. Les grands-papas Robochons disent volontiers que les petites poussettes sont égoïstes. En fait, ce qu'ils ne voient pas, c'est que leurs petits-enfants sont des individus et qu'eux ne l'étaient pas. C'est dans ce contexte que la société est globalement interprétée. Oui, jamais l'humanité n'a eu davantage besoin de synthèse.
C'est auprès des plus pauvres que j'ai rencontré la fraternité. Cette convivialité sociale de proximité apporte reconnaissance et sécurité. Elle produit des relations qui sont complémentaires à celles des familles et des professionnels. Les anciennes formes de ces entourages s'étaient défaites. Il est urgent d'en réinventer de nouvelles. La question du sacré. Ce que je constate, c'est que là où il y a du sacré, il y a effectivement création profonde de liens. Accompagner une personne signifie marcher à côté d'elle, jamais devant. C'est un compagnonnage. La prévention est certes indispensable, mais elle peut être paralysante. Mon engagement est dans la rencontre de l'autre. Seul, l'exercice de l'altérité permet de devenir maître de sa propre vie. Des personnes qui ont eu pleinement leur place dans la société d'individus la perdent en traversant des périodes de fragilité ou en vieillissant. Alors, l'isolement des personnes âgées qui se retrouvent parfois mises à part, prises dans la spirale de l'isolement. Elles perdent leur place d'individus pour ne plus devenir que des cas personnes âgées dépendantes, malades d'Alzheimer, etc.
Tu as raison. L'entraide n'est pas un métier. Elle consiste simplement à laisser parler l'humanité. Tu sais, j'ai fait de la philosophie à cause d'Hiroshima. Il y a un paradoxe. En aidant, je ne suis pas seul, mais si je reste seul à aider sans cesse la même personne, je m'isole gravement. Notre société favorisant l'individualité, il lui faut inventer de nouvelles appartenances. Toute notre vie est marquée par ces expériences successives d'abandon. Les anciennes manières d'être ensemble se sont effondrées. Il convient d'en réinventer. Oui, veillez à la priorité de la mission sur la structure. Le spirituel a disparu de nos sociétés. Voilà, il y a une autre idée dans ce livre que je vous recommande absolument à lire pour les vacances, Solitude, Dialogue sur l'engagement, Michel Serres et son fils, édition Le Pommier, c'est cette idée de la mort. Michel Serres rappelle que dans sa génération et dans la génération qui l'ont précédé, la mort c'était l'engagement pour la nation, la guerre 14-18, la seconde guerre. Maintenant, la mort n'est plus un engagement, c'est un autre engagement pour inventer la vie. Alors nous allons terminer cette première partie en réécoutant cette musique de Sans Famille qui en dit aussi long que le livre. Elle vient tout doucement, cette musique. Allez sur Google, regardez Les Petits Frères des Pauvres, Mona Lisa et d'autres sites. Il réside parmi nous. Écoutons sans tarder François Floic, né en Bretagne en 1920, qui réside dans le Var. Il a été aide de camp du général de Gaulle. Le voici. Vous avez été aide de camp du général de Gaulle et à ce titre, vous êtes un témoin historique exceptionnel.
Oui.
Vous avez déjà
été aide de camp de 59 à 62 et de 65 à 69.
Ce qui est tout à fait.
Je vais venir en Irlande.
Voilà, tout à fait. Et vous avez déjà écrit beaucoup sur le général de Gaulle, mais vous préparez un nouveau livre. Pouvez-vous nous parler de ce nouveau livre ?
Un nouveau livre, j'ai voulu prendre le général de Gaulle dès sa jeunesse pour connaître ses sentiments sur beaucoup de choses. Et j'ai travaillé donc sur les notes et carnets, sur ses mémoires de guerre, et j'ai donc présenté à de Gaulle durant toute sa vie. Et quand je n'ai pas de documents, je me suis permis d'imaginer ses sentiments.
chance extraordinaire de l'accompagner à Baden-Baden, en Irlande, d'être près de lui. Vous le connaissez.
Et alors, ça, je fais la relation complète de Baden-Baden, tel que c'est passé. Et donc, je crois que c'était un peu. On a dit beaucoup de choses sur Baden-Baden, mais on n'a pas raconté la manière dont les choses se sont passées. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'on refasse mai 68 et Baden-Baden, parce que nous sommes en train de revivre mai 68 avec la violence en plus actuellement, puisqu'on attaque les gens, c'est une régression dans notre vie.
L'impression profonde que vous avez du général de Gaulle, vous qui avez été si proche de lui. Je n'ai pas l'objectif.
Irlande me l'a offert de la manière la plus délicate, la plus amicale qui soit. Alors, partant de ces paroles du général, j'ai entrepris de mettre dans sa peau, et au-delà des écrits et témoignages que je possède, j'ai eu l'audace d'imaginer quels étaient ses sentiments plusieurs fois et dans plusieurs occasions graves de la vie de la pensée. Voilà un peu ma démarche pour cet ouvrage. Je termine évidemment cet ouvrage, comme le général dit, ce moment grave de ma longue vie, je termine en imaginant, en résumant le bilan du général.
Merci beaucoup, monsieur Fruit. Quand est-ce que votre livre sort ?
Eh bien, écoutez, le tapisserie, il faut que je trouve un éditeur. Le tapisserie, je viens de mettre la dernière main au virgule et au point virgule. Et je pense que je trouverai un éditeur. Je ne sais pas qui me prendra. Hein.
Tout à fait.
Le général, il y a tellement d'ouvrages sur le général que les éditeurs hésitent. Hein.
Je m'en doute, mais quand même, un ouvrage venant de vous, c'est quand même très original.
Oui. Moi, si vous êtes gentil de penser que le dernier roi des Francs a été intéressant, mais le prochain, je crois, sera plus intéressant encore.
Merci beaucoup, monsieur Fleuric, et nous suivrons de près la parution de votre prochain livre.
Merci, monsieur.
Voilà, nous allons sans tarder aller à Corrence, sur Argent, dans le Var, pour nous entretenir par téléphone avec Géraldine. Excusez-nous de la qualité très moyenne de ces entretiens par téléphone. Nous n'avons pu faire mieux. Nous ferons mieux l'an prochain. Voici Géraldine de Corrence sur Argent. Géraldine, bonjour et merci d'accepter de répondre à notre demande. Je voudrais, Géraldine, je vous ai présenté dans la première partie, vous poser quatre questions. La première, c'est les éditions Graines d'Argent que vous avez créées et qui publient un certain nombre de livres. Pouvez-vous nous dire quelle est la date de création et pouvez-vous nous recommander deux projets en cours et en particulier deux livres que vous aimeriez voir lire par nos auditeurs ?
Oui, Michel, bien sûr, très volontiers. La maison d'édition Graines d'Argent a été créée à Corrence en 2014, le 7 juin exactement. Et depuis, eh bien, nous avons tout un tas de manuscrits, de créations et de projets qui sont en cours. Alors, si j'ai un livre à conseiller pour les vacances ou pour les temps à venir, ça serait Notre esprit de cuisine. C'est pour moi un petit peu le livre de l'été, parce que déjà sa couverture est vraiment particulièrement gourmande et très colorée, puisqu'elle présente des belles tomates dans les mains d'un paysan de Corrence qui a planté ses tomates et qui les a récoltées. C'est un livre qui offre des recettes, mais les recettes, c'est bien la moindre des choses qu'il apporte. Il apporte des rêves, il apporte des citations, il apporte des accords mévins avec chacun des domaines du village. Et puis, il apporte toutes ces petites histoires qui font ce qui est aussi un village, avec des ingrédients cachés, avec le secret des proportions. Donc, c'est un livre de recettes, mais c'est aussi un livre à lire et c'est un livre qui est très frais, qui a été fait par le collectif de l'agenda 21 du village de Corrence. Et les photos ont été faites par Gérard Mercy, qui est par ailleurs un photographe et un artiste hors pair. Voilà, Michel.
Et vous avez un autre livre, en tout cas celui-ci, je le connais, et je le recommande à nos lecteurs pour le lire personnellement, mais aussi pour l'offrir comme cadeau, car c'est un très très beau cadeau.
Bien sûr, oui, c'est un très beau cadeau, et oui, bien sûr, j'ai un autre livre. J'ai un livre qui est cher à mon cœur, mais je recommanderai le livre sur Corrence, parce que maintenant, ça fait 2 ans qu'il est sorti, et parce que c'est un très très beau livre d'histoire. C'est un livre qui raconte l'histoire du village, en partant de l'établissement des moines de Montmajour sur ce site si particulier, qui est traversé par le fleuve Argent, hein, qui a aussi donné le nom donc, à notre maison d'édition, et qui va jusqu'à nos jours, jusqu'à la conversion du village à l'agriculture biologique. Et dans ce livre, on a fait converger toutes les belles histoires, et toutes les histoires qui ont, tous les projets qui ont été menés à bout, et qui ont eu des réussites heureuses. Voilà. Alors bien sûr, il y a eu des projets qui ont été menés, mais qui ont échoué. Mais dans ce village, il y a une somme de choses vraiment qui ont réussi, portées par tout un tas de personnes très dynamiques. Et ce livre, je trouve que pour toutes les personnes, pour les personnes engagées, pour les personnes moins engagées, dire que quand on a terminé ce livre, que on est plus fort ensemble et que finalement la solidarité, le fait de réfléchir en commun, ben, ça permet d'aboutir à des très belles choses.
Votre site, Géraldine?
Oui, alors notre site c'est édition, donc W3, édition au pluriel, tiré graines au pluriel, d'argent. Voilà.
Merci, mais Géraldine, alors vous lancez en 2016-2017 un concours pour un lycée agricole. De quoi s'agit-il? Et ensuite, je crois que vous prévoyez d'en faire un concours national.
Tout à fait. Donc, nous avons eu l'idée de lancer ce concours, donc un concours de littérature qui sera sorti d'un prix littéraire auprès d'un jeune public qui est un public d'apprentis paysans, donc un public d'élèves d'un lycée agricole qui est le lycée de la Provence Verte, situé à Saint-Maximin à Sainte-Bonne. Donc notre idée a été de constater que la plupart des élèves, donc d'apprentis paysans qui peuplent son lycée, sont des enfants qui ne sont pas issus de familles paysannes ni même de familles rurales. Et ils sont en demande d'identité, en quête d'identité, en quête de transmission. Et c'est quelque chose qui est vraiment un poids pour eux et qui a été détecté par le directeur. Et on s'est dit que c'était vraiment très important pour nous, maison d'édition, de les aider justement à s'ancrer dans ce patrimoine de la Provence verte, à aller au-devant des différents interlocuteurs paysans, conteurs, des personnalités vraiment emblématiques de cette Provence verte rurale et paysanne, et dont nous avons décidé de monter pendant à peu près 7 ou 8 mois, qui suivront donc l'année scolaire de septembre 2016 à environ avril 2017, des ateliers, des conférences, des sorties plein air, de façon à mettre ces élèves en condition d'inspiration et de leur permettre justement de se documenter, de lire, d'écrire, et après eux-mêmes de se mettre au travail et de devenir à leur tour des écrivains, de façon à pouvoir s'approprier cette terre sur laquelle ils apprennent à devenir paysans, hein, la Provence verte, et également aussi d'arriver à développer leurs émotions.
Et vous envisagez en faire ultérieurement un concours national?
Bien sûr, c'est-à-dire qu'on envisage vraiment de le proposer à tous les lycées agricoles qui sont partants pour vivre cette aventure, parce que je pense que c'est une réelle aventure qui, de plus est, correspond vraiment au projet pédagogique en général des lycées.
Géraldine, vous organisez en 2007 justement le congrès national de l'Association des écrivains et artistes paysans. Quelle date?
Ça sera vraisemblablement au mois de septembre 2017, peut-être deuxième quinzaine de ce mois de septembre.
Merci Géraldine. Alors enfin, il y a ce projet Renaissance et Partage qui concernerait les éditeurs, les libraires, les auteurs et les instances qui font renaître le livre et l'écrit dans la région PACA. Et ça se passera à Corinth aussi en 2017, qui devient un haut lieu de l'écriture, de la terre et de tant de renouveau. Ça serait vers quelle période, Géraldine? Géraldine, pour toutes ces informations, pour essayer d'avoir un contact permanent avec Corinth, une référence, un mail, un site, à qui s'adresser?
Pour Corinth, vous avez l'office de tourisme qui est particulièrement actif et qui est vraiment tout à fait transversal. Je ne peux que recommander de s'adresser vers cet office.
Donc pour toutes ces informations dont on a parlé, pour tous ces projets, s'informer de l'office du tourisme de Corinth. Merci beaucoup Géraldine. Merci Géraldine.
Merci à vous Michel. Merci.
Au revoir. Voici, chers auditeurs, le temps de nous quitter pour cette dernière émission. Je voudrais remercier Anna, Philippe, sans qui la qualité de ces émissions ne serait pas comme elle est, sauf aujourd'hui où il n'y peut rien. C'est l'entretien par téléphone qui n'a pas été très pertinent. À Agora, et à tous ceux que nous avons reçus cette année et à chacun de vous auditeurs. Je vous souhaite de très très bonnes vacances et tandis que va monter le leitmotiv de la musique de notre émission, je vous souhaite de découvrir, comme je le ferai moi-même, cette merveilleuse région, la région PACA. Découvrez la France, découvrez le monde, laissez-vous découvrir vous-même et la vie. Dégustez ce temps si fragile comme présent au présent. Rendez-vous pour la prochaine saison 2016-2017. Et allez voir artcultureeducation.com. Vous y trouverez déjà le programme pour l'an prochain. Bonnes vacances, chers auditeurs.